Bonjour, ici c'est Jean-Joseph Magliga. Pour l'instant, je prends un petit peu la place de Michel Gravier, qui va bien. Voilà. Aujourd'hui, j'ai invité Ghislaine Andreu. Je vais la laisser se présenter, qu'elle nous raconte un petit peu. Puis après, le thème d'aujourd'hui, c'est autour des abeilles.
Bonjour, je suis donc Ghislaine Andreu, j'habite à Saint-Nabord et je suis apicultrice depuis 7 ans maintenant. J'ai rencontré le monde des abeilles par le biais de mon papa qui était apiculteur, qui l'a été pendant 30 années. Et les abeilles ont toujours fait partie, en tout cas, de la famille, du côté de ma maman aussi. Son papa était apiculteur. Je ne l'ai pas connu, mais voilà, ça fait partie du monde un petit peu qui a gravité dans la famille. Et puis, j'ai rencontré réellement les abeilles, parce qu'avant, j'en avais peur. Lorsque j'allais au rucher avec mon papa, eh bien, j'étais toujours inquiète, toujours peur de me faire piquer, malgré la tenue qu'il me passait. Et puis, un jour, il y a eu une rencontre avec les abeilles. Elles m'ont adoptée. Et j'ai décidé, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai décidé de changer de vie. Et j'ai déménagé et je suis venue reprendre la suite de mon papa, la suite du rucher qu'il avait créé 30 années, pendant 30 années, puisqu'il ne pouvait plus s'en occuper. Et voilà, l'aventure a commencé.
Les abeilles, c'est une longue aventure avec les hommes.
Oui. Absolument, c'est une aventure merveilleuse encore. Je n'imaginais pas en tout cas que ça allait être une telle rencontre, une telle passion, un tel engagement, un tel travail aussi. Ça, je ne le savais pas il y a 7 ans, mais voilà, je suis là.
Voilà, après, les abeilles peuvent aussi vivre en dehors des hommes, parce qu'on a l'impression finalement l'apiculture, c'est effectivement des abeilles dont on s'occupe, mais elles peuvent aussi exister dans la nature sans les hommes.
Oui, elles existent dans la nature sans les hommes depuis tellement longtemps, puisque ce que nous transmettons souvent, c'est les abeilles existaient déjà au temps des dinosaures, donc elles existaient bien avant nous. Elles existent dans les forêts, évidemment. L'apiculteur aujourd'hui, il a pour rôle de les protéger lorsqu'il les met dans des ruches, donc dans des caisses, on appelle cela en bois, il les protège parce qu'aujourd'hui, la biodiversité ne donne plus la nourriture nécessaire pour les abeilles. Et puis, il y a aussi tous les parasites qui sont arrivés maintenant à l'intérieur de nos ruches, et là, il faut s'en occuper. Comment est-ce que ça se passe après au niveau dans la nature? Est-ce qu'elles se débrouillent? En tout cas, ce ne sont pas les mêmes abeilles. Beaucoup meurent de toute façon. Et le rôle de l'apiculteur, c'est de les protéger de toute façon. C'est son premier rôle.
Voilà, parce qu'effectivement, j'avais discuté avec un de vos collègues, je lui ai dit, moi, j'ai jamais vu de dessin d'abeilles en dehors des ruches. Hein. Je vais souvent en forêt, mais j'ai jamais observé. Voilà. Après, je ne vais pas vous couper trop longtemps. Vous faites partie aussi d'une association.
Oui, nous avons créé une association. Nous sommes 5 passionnés, un petit peu fous. Il y a aussi des bénévoles qui sont à l'intérieur de cette association. Et en fait, c'est comment dire, quand je dis passionnés, parce que notre rôle, notre but en tout cas, avec cette association, c'est d'aller au contact des enfants dans les écoles, ce que nous faisons. Cette année, nous sommes allés aussi à la rencontre du Home Fleuri, donc des résidents à Saint-Étienne. Nous avons fait le centre aéré aussi. Et puis, donc depuis 3 ans, nous sillonnons un petit peu plusieurs communes qui nous invitent, les instituteurs, institutrices nous invitent à venir passer une journée avec elles. On amène tout le matériel et nous faisons donc des ateliers pédagogiques pendant une demi-journée avec une classe. Les enfants sont très réceptifs, très heureux de vivre cette aventure. Nous avons plusieurs ateliers. Le premier atelier, c'est d'informer sur le rôle de l'abeille. Qui est-elle? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Le matériel? Où est-ce qu'elle vit? Ensuite, le deuxième atelier va être la pollinisation essentielle, primordiale, dans le rôle pour la biodiversité, pour notre environnement. Et le troisième atelier, ce sont les trésors de la ruche. C'est tout ce que l'abeille fabrique. La cire, la propolis, le miel.
Donc, votre association s'appelle ?
Raconte-moi les abeilles.
Voilà, donc elle est basée à Saint-Nabor.
Oui, et
vous
je vous invite à aller...
Vous êtes présidente de cette association.
Je suis la présidente de cette association, absolument. Je vous invite à aller sur notre compte Facebook parce qu'il y a énormément d'informations. Et si vous voulez venir nous rejoindre dans notre association, vous êtes les bienvenus.
Vous avez des manifestations prévues ? Vous participez à des manifestations bientôt ? On peut vous retrouver quelque part
bientôt ? Nous venons de terminer... la saison, nous étions invités au jardinier de Adol. Il faisait un salon et nous avons été invités justement pour parler de notre association et puis de la conférence que nous avons créée sur le frelon. Donc nous l'avons donnée et les gens sont venus spécialement, entre autres, pour cette conférence. Mais dans notre association, on a quatre buts en fait. C'est d'informer sur le rôle de l'abeille dans la vie en fait, dans l'écosystème, de les sensibiliser, comment la protéger, quel est son rôle exactement. Et puis aussi, c'est de transmettre, c'est de donner l'envie à des jeunes, à des moins jeunes, à des retraités, seulement tout jeunes retraités qui ne savent pas quoi faire et qui auraient envie de s'intéresser de ce monde parce qu'il est passionnant.
Donc, vous parliez du rôle des abeilles, ou peut-être en parler un petit peu, le rôle dans l'écosystème.
Eh bien, c'est-à-dire que sans abeilles, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Donc ça, c'est un peu... C'est le message que nous faisons passer aux enfants. Et ils l'entendent très bien, en fait, que voilà, les abeilles vont amener le pollen sur les différentes fleurs et qui va permettre de... Ça, ils l'apprennent à l'école, mais qui va permettre de créer des fruits et de créer des légumes. Et ça, c'est essentiel. On le dit d'une manière facile, c'est quelque chose qu'on entend, mais quand on en fait réellement prendre conscience, et même aux adultes, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui connaissent les abeilles, mais qui ne savent pas quel est réellement son rôle, quel est essentiel. Sans elle, eh bien, il n'y a
voilà,
plus.
Voilà, les abeilles domestiques. Après, il y a aussi quand même des insectes sauvages qui participent à la pollinisation.
Bien sûr. Il y a les papillons, il y a les guêpes, il y a les mouches, il y a les... Tous ces insectes vont sur les fleurs et vont polliniser. Il y a aussi une abeille toute petite qui se trouve sur, je ne sais plus son nom, qui se trouve au Honeck et qui est une grande pollinisatrice. Je l'appelle l'abeille mouche, moi, parce qu'elle est petite, mais il y en a énormément et elle est aussi essentielle.
Voilà, donc après les abeilles domestiques qui sont élevées par les apiculteurs, donc sont une grande proportion, on va dire, quand même, des pollinisateurs, mais qui peuvent être aussi donc des pollinisateurs sauvages qu'il faut aussi protéger. Et l'un va avec l'autre.
Oui, l'un va avec l'autre, c'est indispensable. Les abeilles qu'ont les apiculteurs, ce sont des abeilles qui font du miel. Et nous avons besoin de miel. Et nous avons aussi besoin de propolis. Parce qu'aujourd'hui, la médecine s'intéresse à la propolis. Et là, ce sont les apiculteurs qui vont pouvoir la donner. Dans le monde sauvage, dans le monde de la nature sauvage, j'ai envie de dire, on ne va pas réussir à aller... parce qu'elles sont cachées, elles sont dans des troncs d'arbres, elles sont... Et le miel, nous en avons besoin. C'est-à-dire, c'est délicieux. Tout le monde mange du miel. Dans les Vosges, on connaît bien le miel et on adore le miel dans les Vosges. Et pas que dans les Vosges, mais comme nous sommes à Saint-Étienne, c'est le lieu. Donc, l'apiculteur, lui, élève des abeilles qui font du miel. Elle s'appelle Apis mellifera. C'est l'abeille qui fait du miel.
Dont il existe d'ailleurs plusieurs... je ne sais pas si on dit des espèces, parce que l'espèce Apis mellifera, c'est plutôt des variétés.
Enfin, bref. Oui, des espèces, oui, il y en a des milliers dans le monde. Il y en a à peu près 1000 en France.
Donc il y a des abeilles un peu plus spécifiques, des abeilles noires qui sont plus sauvages, enfin plus proches.
Oui, il y a des abeilles solitaires. Il y a des abeilles qui vivent toutes seules. Il y a des toutes petites abeilles. Elles ont plusieurs tailles, en fait. Et les espèces ne se ressemblent pas. Enfin, ne se ressemblent pas. Et les couleurs sont différentes. La grosseur est différente. Leur rôle est différent. Mais dans tous les cas, le rôle est toujours de polliniser. Ça, c'est clair. Mais l'abeille, nous, qui nous intéresse...
Voilà, je voulais parler justement, dans l'Apis mellifera, il y a aussi plusieurs variétés, des variétés plus commerciales, entre guillemets, des autres plus sauvages.
Alors, il y a des abeilles qui ont été... sélectionnées pour faire beaucoup de miel. Et puis, il y a l'abeille noire, qui est l'abeille endémique, en fait. Alors, il y a des lieux où il y a des apiculteurs qui n'ont que des abeilles noires. Donc, elle a une spécificité, un caractère différent de l'abeille qui a été, elle, sélectionnée. Mais bon, après, chaque apiculteur fait comme il veut. Vit avec elles, avec leur tempérament, et puis leur... puisque chaque colonie va avoir un tempérament différent, même si c'est la même espèce.
De toute façon, les abeilles, après, se croisent, s'hybrident, voilà. Hein. Donc, sauf, je crois, sur l'île d'Ouessant.
Voilà.
Donc, c'est loin du continent et où donc il n'y a que de l'abeille noire.
Absolument, hein, voilà. Tout à fait.
Voilà, donc du coup, l'apiculteur, donc, lui, il fait son travail, il protège ses abeilles, il les nourrit s'il y a besoin, hein, parce que donc tout le truc, mis à part la production de miel, tout le truc, c'est de les protéger pour qu'elles passent bien l'hiver.
Oui.
Après, qu'est-ce que tout le monde peut faire pour aider les abeilles, peut-être déjà passer l'hiver ? Après, on va peut-être faire une petite pause musicale, Lou, qu'en penses-tu ?
Thank you.
Voilà, donc du coup, je voulais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider un petit peu les abeilles et les pollinisateurs, dont effectivement, effectivement on a déjà entendu dans l'actualité sur le rôle des pesticides, l'acétamipride ou d'autres, hein, avec le fait que la disparition, le déclin des insectes, qui est constaté depuis plusieurs années, peut faire craindre le fait que la pollinisation fonctionne moins bien et qu'on ait même des pénuries alimentaires. Donc du coup, qu'est-ce que chacun peut faire par rapport à ça? Donc le législateur peut effectivement interdire certains pesticides. Donc en tout cas, il y en a qui sont interdits en Europe, d'autres spécifiquement en France. Dans le monde, ailleurs, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont des problèmes de pollinisation? Je ne sais pas exactement. Je sais que dans certains vergers, on transporte des ruches pour favoriser la pollinisation. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Chine, ça se fait peut-être aussi ailleurs. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas bien le thème. Et puis, qu'est-ce que nous, on peut faire chacun? Il y a eu une mode depuis plusieurs années sur les hôtels à insectes, qui sont un petit peu des... ça c'est un petit peu une manière de sensibiliser les gens à certaines choses, mais ce n'est pas forcément la solution unique.
Non, c'est un ensemble de solutions. La première chose, évidemment, ce dont vous avez parlé, c'est effectivement tous les pesticides et tous les produits chimiques qu'on peut éviter d'utiliser dans son jardin d'agrément ou dans son jardin potager. Et puis déjà, ce sera meilleur pour notre santé. Donc ça, c'est essentiel, évidemment. Si vous avez traité et que vous avez un rucher à côté de chez vous, quelques ruches et que les abeilles vont venir butiner le matin, évidemment, elles vont mourir. C'est très simple. Alors, donc ça, c'est la première chose, tenter d'éviter de traiter. On ne peut pas interdire, puisque chacun fait comme il veut, mais ne pas traiter chimiquement.
Après, il y a des produits qui sont interdits, qu'on utilisait autrefois, oui, qui sont de toute façon, qui ne sont plus disponibles.
Ils sont plus disponibles, ils sont dans les oui, caves encore.
Il y en a effectivement toujours. C'est aussi le rôle du citoyen consommateur de peut-être acheter des légumes dont il sait qu'ils n'ont pas été traités, etc. Donc, voilà.
En fait, c'est une entente avec les agriculteurs et les apiculteurs. Il y a des rencontres avec ces deux communautés parce que c'est important de travailler ensemble, en tout cas, parce que on ne peut pas tout interdire en une minute. Mais en même temps, il faut vraiment prendre conscience que c'est le chemin à prendre parce que sinon nous n'aurons plus de pollinisateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Planter semer des plantes mellifères. Il y a énormément d'informations. Je ne peux pas vous, je vais pas faire une liste. Allez sur Internet, demandez, allez dans les jardineries, demandez, et vous aurez toutes les informations. Il y a énormément de livres aussi. Ensuite, planter...
Mais si par vous... exemple, autrefois, dans les jardins, les jardins étaient peut-être plus divers que maintenant. L'idée, c'est par exemple de planter des fleurs autour de son jardin ou à l'intérieur du jardin.
Oui.
Pas si vous êtes peut-être pas trop.
Oui, oui, mais bien sûr. Mais si, au contraire, au contraire, ou alors de faire plutôt que de mettre uniquement de la pelouse, réserver un endroit où vous mettez des fleurs qui vont pousser du printemps jusqu'à l'automne, et puis vous aurez une petite prairie fleurie. Il y a aussi ne pas, si possible, ne pas tondre la pelouse tout de suite, laisser les fleurs venir à maturité, venir donner leur pollen et ensuite tondre la pelouse. Elle va être un peu plus grande. Les pâquerettes, les pissenlits, ça c'est la nourriture essentielle, les pissenlits au printemps. Comment ?
Les marguerites un peu plus tard.
Les marguerites un peu plus tard, c'est joli, les abeilles ne vont pas vraiment dessus.
Oui.
Donc, mais par contre, évidemment...
Alors sur quelles fleurs elles vont plus particulièrement ? Qu'est-ce qu'elles aiment bien ?
Elles aiment la bourrache.
Par exemple, il y a un arbre qui est plutôt une espèce qu'on peut considérer comme envahissante. C'est l'arbre à papillons, le Buddleia. Donc, qui, par exemple, attire plutôt les papillons. Mais ne les nourrit pas. Hein. Alors, il y a peut-être aussi... il y a aussi les fleurs doubles. Qui en fait, les insectes n'arrivent pas à pénétrer à l'intérieur, il n'y a pas de pollen à l'intérieur. Donc, du coup, il faut favoriser des espèces peut-être plus sauvages, plus simples.
Oui, mais ça, dans les mélanges de semences mellifères, vous avez toutes les espèces, vous avez plusieurs espèces, et elles vont fleurir à différents moments de l'année. Si bien que les abeilles auront toujours une nourriture, en tout cas. Mais par exemple, dans nos jardins, la bourrache, elle fleurit du printemps, enfin à partir du mois de mai, je crois, jusque maintenant. En ce moment, elle est très fleurie.
Elle envahit tout.
On n'a pas besoin de s'en occuper. Et les abeilles ont la nécessité de cette fleur. Il y a le lierre en ce moment. Alors, le lierre, ne pas le couper avant qu'il ait donné ses fruits. Parce que là, les abeilles, c'est la dernière nourriture, c'est le dernier nectar à l'automne qu'elles vont aller chercher et qu'elles vont pouvoir rentrer pour pouvoir... Et le pollen aussi, puisqu'elles ont besoin de pollen, c'est essentiel à leur nourriture.
Pour faire des réserves pour l'hiver.
Réserves pour l'hiver et puis surtout pour se nourrir, elles ont besoin de protéines.
Être en forme pour...
Le pollen, c'est les protéines. Mmh. Et ensuite, pour nourrir les larves qui seront pondues au mois de janvier. Donc, c'est tout un cycle nécessaire. Vous parliez des anciens, ils avaient dans leur jardin, ils laissaient pousser, ils ne tondaient pas tout, ils laissaient la nature aussi sauvage. On appelle la nature sauvage, mais à vivre et avoir, et que les fleurs arrivent jusqu'au bout de leur vie.
Je ne sais pas depuis quand on fait des pelouses, mais autrefois, il n'y avait pas de pelouses. C'était des prés, et puis donc on les fauchait au moment des foins. Enfin, souvent, en général, on n'était pas en train de faucher tous les 15 jours. Hein. D'ailleurs, peut-être que plutôt que d'avoir des tondeuses qui vrombissent ou des broussailleuses thermiques tous les week-ends ou en dehors des heures de travail, peut-être qu'on pourrait effectivement retrouver un petit peu le chemin de la faux. J'aime beaucoup les faucheurs. Et ça s'apprend. Hein. D'ailleurs, on a fait une animation du côté d'Épinal, donc à AGEC, avec l'association dont je fais partie, les Petits Ruisseaux. On a fait donc une fête des foins où des gens sont venus apprendre à faucher.
Oui.
Il y a des faucheurs dans la vallée de la Moselle.
Formidable.
Je leur fais un petit coucou s'ils m'écoutent.
Oui, mais sinon, après, le coupe-fil fonctionne très bien, hein, une fois que c'est grand. Hein. Ce ne sera plus la tondeuse, mais une fois que les fleurs sont grandes, le coupe-fil va très bien fonctionner. Les anciens avaient aussi une chose... les agriculteurs avaient souvent une ruche une ou deux ruches. Ils faisaient leur miel, mais ils avaient les abeilles à proximité. Mon père disait toujours, si on veut faire quelque chose pour la planète, que chaque personne ait une ruche dans son jardin.
Voilà, alors moi j'avais d'ailleurs, vous parliez des retraités, je m'étais toujours dit que quand je serais en retraite, j'aurais une ou deux ruches, comme ça, juste pour le plaisir, sans forcément récolter le miel d'ailleurs, oui. Juste pour la biodiversité.
Oui, mais vous récolterez du miel quand même, parce que de toute façon, les années comme cette année qui ont été riches, la nature a donné tout ce qu'il fallait, les abeilles ont fait du miel, et ont fait du miel, et ont fait du miel, elles en avaient plus qu'il ne leur en faut pour passer l'hiver. Donc, et les années où il n'y a pas, où la nature ne donne pas, comme l'an dernier, où il n'y avait absolument rien du tout, eh bien, tout le miel qu'elles vont récolter, elles vont le garder, bien évidemment, parce que l'apiculteur ne prélève qu'une partie, ne va jamais prélever, les gens ne savent pas, en fait. Souvent, ils disent, oh, vous enlevez le miel aux abeilles, mais pas du tout. On n'enlève pas le miel aux abeilles. Tout ce qui fait partie de leur maison, de la ruche, à proprement dit, jamais, 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 on ne va chercher ce miel. On va chercher le miel qui est dans la hausse, qui se trouve au-dessus, parce que précisément, les abeilles ont, travaillent, fabriquent du miel, donc vont chercher le nectar, elles font du miel, et on va mettre une hausse, deux hausses, selon les années, ou trois, ou quatre, selon ce qu'elles vont faire, et on ne va pas les priver de miel.
Alors, je fais juste une petite parenthèse sur le lierre, parce que je vais oublier après. Et puis après, on reviendra sur l'idée de peut-être que chacun ait une petite ruche ou quelque chose. Donc, sur le lierre, je voulais juste dire qu'en fait, le lierre n'abîme pas les arbres. Hein. Donc, il pousse, il s'accroche à l'arbre, mais ce n'est pas un parasite de l'arbre, il n'abîme pas l'arbre. Et il y a des études qui ont été faites sur est-ce qu'il vaut mieux laisser du lierre sur les arbres ou pas. Alors, d'un côté, quand un arbre est envahi par le lierre, il a plus de prise au vent, donc on pense qu'il est peut-être moins résistant aux tempêtes, au vent, il risque plus d'être cassé. Mais d'un autre côté, le lierre ne le gêne pas dans sa croissance. Donc, en fait, à une époque, moi, je me souviens, quand j'étais gosse, la consigne était plutôt de couper le lierre qui envahissait les arbres. Voilà. Mais en fait, on peut très bien laisser pousser du lierre partout sur les arbres. Ça ne gêne absolument pas la croissance de l'arbre. Hein. Voilà, c'était juste pour démentir un peu. Et puis, chacun peut, effectivement, le lierre prolifère assez vite. On peut faire le marcoter très facilement. Donc, on peut tout à fait mettre du lierre au pied d'un arbre qui est en bordure de la propriété ou même en plein milieu. Hein. Enfin, c'est pas un problème. Hein. Voilà.
Donc, en fait, il faut rééduquer les gens parce que les gens ont été éduqués à faire des jardins nickel. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse. Il y a simplement, il faut changer les habitudes, changer les mentalités, faire prendre conscience de l'importance de la pollinisation et que nous avons tous notre rôle à jouer. Nous avons tous à faire notre part, en fait.
Oui, oui, oui. Et effectivement, après, il faut aussi pas être complètement tout d'un côté ou tout de l'autre. C'est-à-dire qu'un jardin, ce n'est pas non plus un espace sauvage. Hein, c'est un espace cultivé, donc il est différent de l'espace sauvage. Après, chaque chose a sa place. Il y a des légumes dans le jardin qui ont besoin d'être nickel, sinon ils ne peuvent pas pousser. Hein. Et puis, il y a d'autres espaces qui peuvent être complètement renaturés. Hein. On parlait un peu des jardins d'autrefois. Ils n'étaient pas forcément... c'est pas parce que c'était autrefois que tout est...
Non, pas du tout.
Formidable, hein, donc on sait très bien. Bon, après, un bêchage de surface, c'est pas la même chose que les labours profonds. Hein. Effectivement, les labours profonds dégagent du carbone, abîment la biosphère du sol. Hein. Un jardin cultivé, c'est autre chose. Hein. Donc après, dans les jardins, par contre, autrefois, il y avait donc, à une époque, en tout cas, des fleurs et tout un tas d'aromatiques, tout un tas de choses qui étaient fréquentées par la biodiversité en général. Hein, Et après, il y a eu une image du jardin qui était complètement propre, où il n'y avait que les légumes qu'on voulait, avec un souci de rentabilité, etc. Hein, donc après, il faut retrouver du bon sens, hein, et trouver un équilibre. Hein, voilà. Donc du coup, on en était où ? Je ne sais plus. sur ces histoires de est-ce que chacun peut avoir une ruche ? Après, une ruche demande quand même des compétences.
Oui, elle demande des compétences. On nous demande souvent, c'était le cas ce week-end à Adol, où des personnes sont venues nous disant « Moi, j'ai un jardin, j'ai une prairie, j'aimerais mettre une ruche, mais je ne peux pas m'en occuper. Est-ce que vous connaissez des personnes ? Est-ce que vous le faites ?» Alors, voilà, donc nous, on les a aiguillés vers les ruchers écoles de la région pour qu'ils passent l'information, justement, parce qu'il peut y avoir des apiculteurs qui habitent dans des appartements et qui n'ont pas un terrain, et qui souhaiteraient avoir des ruches. Donc, voilà, qu'ils se renseignent auprès des ruchers écoles, et puis il y a probablement des personnes qui ont des terrains, qui ont des jardins, et qui aimeraient mettre des ruches, mais qui n'ont pas le temps, ou qui ne veulent pas se former, parce qu'il faut se former, ça c'est...
Parce que vous parlez
essentiel.
Des ruchers écoles, il y en a plusieurs dans les Vosges.
Oui, il y en a plusieurs. Celui qui est tout près de Saint-Étienne, c'est les Avolées à Rue-sur-Moselle. Il y en a un à Épinal. Il y en a deux à Saint-Dié. Il y en a un près de Mirecourt, je crois. Je crois qu'il y a Neuchâteau aussi. Oui, il y a plusieurs ruchers écoles. Donc, il faut se rapprocher des ruchers écoles, parce que avoir une ruche, une première, acheter une colonie, acheter tout ce qu'il faut, bon, elle va passer le printemps. L'été, est-ce qu'elle va passer l'hiver? On ne sait pas. Est-ce qu'au printemps, elles vont être vivantes? On ne sait pas, parce qu'il va quand même falloir conduire une colonie. Ce n'est pas juste poser... Elle va peut-être vivre une année, deux années, mais la deuxième année, vous allez peut-être la retrouver morte au printemps. Et là, c'est la déception. Et vous vous dites, oh ben, c'est pas possible. Simplement, il faut se former, oui. Et il faut se former tout le temps, en fait, puisque ça change, tout change. Le climat change, ça, c'est absolument incroyable. Les fleurs, la chaleur arrive plus tôt, ou alors on se retrouve avec un coup de froid. Alors, comment est-ce que l'on fait? Comment on protège? Comment on isole? Comment on veille à la nourriture qu'elles ont? Est-ce qu'elles ont assez de nourriture? Est-ce qu'elles ont consommé toute la réserve qu'elles ont faite? Et si elles l'ont consommé, alors urgence, il faut amener et du miel et du sirop, un sirop spécifique qui va les nourrir.
Donc un sirop spécifique, donc du coup, c'est du sucre, non, pas seulement.
C'est un sucre, oui, mais qui est fabriqué par les fabricants. Bon, on peut aussi fabriquer ce sucre, mais et moi je mets du miel avec. Moi, j'ai toujours une réserve de miel, un miel de fleurs, que je ne vends pas tout mon miel de fleurs. Il est spécifiquement pour le nourrissement des abeilles. Voilà, en tout cas, surtout au printemps.
Voilà, donc après, vous parliez de l'impact du climat. Donc, du coup, l'impact, il est divers, en fait. Le réchauffement est plutôt favorable, non, pas spécialement, parce que les abeilles vivent sous tous les climats.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'est pas favorable, parce que les abeilles d'hiver, par exemple, doivent tenir pendant 6 mois. Et si on se retrouve avec un climat au printemps pluvieux comme l'an dernier, où elles ne peuvent pas sortir, où on se retrouve avec une température qui n'est pas adéquate, elles ne vont pas pouvoir sortir.
Oui, parce qu'il faut rappeler que, je coupe un peu, mais le réchauffement climatique, c'est un réchauffement global. Mais dans nos régions, c'est en fait sans doute marqué par des périodes, des variations brusques.
C'est ça.
Hein, donc, et au contraire, même le réchauffement climatique chez nous, ça peut être des années qui sont globalement plus chaudes, mais avec des périodes de pluie et une augmentation, en tout cas, de la pluviosité. Et on peut effectivement avoir des épisodes pluvieux, comme on a eu cette année, qui coupent. Hein, avec des périodes de sécheresse qui durent 15 jours, un mois, puis derrière 15 c'est jours, ça. Un mois de pluie qui rappelle l'hiver, enfin, et qui peuvent couper avec même le problème ici des gelées tardives qui peuvent couper les fleurs, en fait, hein, voilà. Des arbres. Voilà, donc d'où la problématique de quelles espèces peuvent à la fois résister à l'augmentation de température et aux gelées tardives ou précoces. Hein.
Tout à fait.
Voilà, donc on va peut-être bientôt refaire une pause musicale. Merci Lou, à la technique.
Bye.
Voilà, donc on se retrouve donc avec Ghislaine Andreux, présidente de l'association Raconte-moi les abeilles. Donc on poursuit l'émission. Juste les abeilles donc je réfléchis mal. Donc là on parlait un petit peu donc de tout ce qui peut favoriser les abeilles, comment on peut laisser de la biodiversité autour de soi. Il suffit effectivement de laisser un coin de pelouse pousser en herbe et que parmi cette herbe tout un tas de plantes. Voilà. Alors, on peut acheter aussi des sachets de plantes fleuries, de plantes mellifères. Enfin, l'essentiel, c'est de laisser dans une pelouse. On ne laisse jamais les plantes pousser en fleurs. Il faut laisser des fleurs, voilà, en fait, qui nourrissent les abeilles. Et ces abeilles-là, donc, on parlait du problème du réchauffement climatique, mais elles ont des ennemis aussi puissants.
Oui, elles ont des ennemis. Le premier ennemi dans la ruche, c'est le varroa. Oui. C'est un acarien qui vient détruire l'abeille. Donc là, on est vraiment très, très embêtés. Il nous faut traiter et il y a plusieurs traitements, bien évidemment.
Le varroa est là depuis longtemps
Il est là depuis, je crois, on est en 2025.
Enfin, je veux dire, il y a 100 ans, il n'était pas là.
Non, il y a 100 ans, il n'était pas là. 2000, je crois que ce sont les années 2000, je ne veux pas dire d'histoire.
Comment il est venu alors, ce varroa?
Comment il est venu, ce varroa? Je crois qu'il a voyagé.
Parce qu'en fait, effectivement, ces envahisseurs...
Il y a plusieurs envahisseurs.
Il y a eu de toute façon, à toutes les époques, des plantes qui ont voyagé. Plus on avance, plus on a des espèces, des choses qui traversent la planète à travers les voyages en avion, avec les marchandises, etc. Hein, donc, dans l'émission sur la forêt, l'autre fois, on a parlé de la chalarose qui vient de l'Est. Les doryphores à une époque. Il y a tout un tas d'insectes et de différentes espèces qui ont voyagé à travers la planète. Donc, en tout cas, le varroa a été est toujours un ennemi très important dans les ruches parce qu'en fait, il va détruire la ruche complètement.
Il va affaiblir surtout l'abeille. Les abeilles, elles ne passeront pas l'hiver. Donc ça, c'est vraiment... En fait, nous sommes en veille permanente tout au temps de la saison. En tout cas, tout le temps de la saison, en tout cas, c'est ce que je fais pour voir quelle est l'infestation et en tout cas essayer de parer au mieux. Il existe les produits chimiques, il existe les produits naturels et ensuite chacun choisit ce qui lui correspond.
Oui, on peut essayer de faire de la prévention, mais ça ne fonctionne pas forcément tout le temps.
Il faut traiter de toute façon, il faut traiter à l'automne, il faut traiter après les récoltes, il faut traiter à l'automne et il semblerait qu'il faille traiter à nouveau aussi au mois de décembre si on veut retrouver nos colonies en pleine forme. Et puis, il y a un deuxième ennemi qui est le frelon asiatique qui vient d'arriver. Il est arrivé il y a 15 ans. Et là, nous sommes vraiment très, très embêtés.
Il a commencé d'Asie. Dans le Midi, en fait, non ?
Il a commencé par la Gironde, je crois,
oui, c'est ça,
le Sud-Ouest.
Oui, c'est ça.
Et puis aujourd'hui, c'est 15 ans plus tard, c'est toute l'Europe qui est envahie. C'est une espèce invasive, exponentielle, qui se reproduit très, très vite. Et surtout, l'ennui, c'est que les nids de frelons sont énormes. C'est sur l'année 15 000 frelons. Là, en ce moment, dans les nids, il y a à peu près 5000 frelons. Mais surtout, il y a des reines, des futures reines qui vont s'enterrer. Et ces futures reines qui vont s'enterrer là, cet hiver, vont représenter à peu près 10% de la quantité des frelons qui sont dans les nids. Ça représente à peu près 500 reines, futures reines qui vont créer des nids au printemps. Elles ne seront pas toutes fécondées, mais elles vont l'être. Une grande partie, beaucoup, 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 va être... féconder. Et au printemps, elles vont ressortir pour créer des nids. Donc, l'important, c'est de piéger. C'est ce que nous avons fait. En tout cas, nous avons mobilisé avec l'association, la commune de Sanabor, la municipalité. Et la municipalité a acheté 60 pièges. Et nous avons 60 piégeurs volontaires qui sont en train, qui piègent depuis le mois de mars les frelons. Et la récolte est énorme. Ça a super bien marché. Je veux dire, vraiment, on remercie vraiment tous les piégeurs volontaires qui jouent le jeu. Parce que de toute façon, ils sont envahis dans leur espace de jardin, de terrasse. Ils ont des nids. Et on ne les trouve pas là, forcément.
Oui, les nids ils sont ne bien les cachés. Trouvent pas.
Les nids sont bien cachés.
Ils peuvent être tout en haut des arbres, dans le feuillage.
Dans etc. le feuillage, dans les haies. En fait, je veux juste dire une chose. Si vous devez tailler des haies, regardez à l'intérieur des haies avant de tailler, avant d'arriver avec la débroussailleuse. Si vous devez transporter du bois que vous avez stocké depuis 2 ans, 3 ans, regardez d'abord si vous pouvez, s'il n'y a pas des frelons qui rentrent, parce qu'ils adorent ces lieux. Ils sont partout.
Il faut les regarder à quel moment il y a un moment dans la journée où on peut voir des frelons trimballer près de leur nid ou...
Oui, c'est-à-dire qu'ils vont chercher la nourriture dès qu'il y a du soleil. Donc, ils vont chercher la nourriture principalement sur les ruches en ce moment. La principale prédation, ce sont les ruchers. Mais il faut savoir que les frelons mangent tous les pollinisateurs. Et c'est en cela que nous sommes en lutte, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, il y a tous les pollinisateurs. Il y a des régions où il n'y a presque plus de pollinisateurs parce que l'infestation est tellement grande, les gens n'ont pas réagi ou alors ont été dépassés, tout simplement. Donc, dans les Vosges, le frelon arrive réellement depuis 2 ans en masse et nous faisons une campagne d'information. Parce qu'il faut piéger en amont les rennes au printemps. Nous en avons piégé 500 en 2 mois sur Sanabor, mais d'autres sont passées entre les mailles du filet et nous avons des nids. Alors, comment est-ce qu'on fait? On a une solution qui vient d'arriver sur le marché, c'est une mallette de télémétrie.
Parce qu'avant, on mettait souvent des pièges à guêpes qui sont non sélectifs, qui piègent plein d'insectes. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller maintenant. Donc il existe d'autres solutions.
Je parlais des pièges. Il y a beaucoup de choses à dire, justement. On n'a plus beaucoup de temps. Les pièges, il faut qu'ils soient sélectifs, bien évidemment. Sinon, nous jouons le même jeu que le frelon. C'est-à-dire que nous piégeons les papillons, les mouches, les guêpes et bien sûr les frelons aussi, les frelons européens, les frelons asiatiques. Il existe un piège sélectif qui ne piège que les frelons. Vous le trouvez sur Internet et vous le trouvez aussi dans les magasins d'apiculture. Il y a un magasin d'apiculture à Épinal, je peux nommer le nom, Naturapi, Monsieur Guillaume Rateau, qui vous accueillera et qui vous donnera toutes les informations.
Un piège, ça coûte cher.
Ça coûte 45 euros celui-là et il est pas indestructible, mais disons que vous allez pouvoir le garder longtemps. Et il est efficace parce que là, actuellement, ce que l'on piège, ce sont uniquement des frelons asiatiques. De toute façon, les abeilles n'y vont pas puisque l'appât que nous avons mis, bière, vin blanc et sirop de cassis, va faire une fermentation que les abeilles ont horreur. Et de toute façon, elles n'ont pas... L'intérêt de ces pièges sélectifs, c'est qu'aucun... Aucun moucheron, aucun insecte ne peut aller se noyer parce qu'il y a une petite séparation qui va juste donner les odeurs. Et donc, les frelons sont attirés par cette odeur. Et ensuite, de par le piège, la fabrication du piège, ils vont arriver, ils vont se diriger dans un autre lieu du piège et ils ne seront pas noyés.
Donc on ne peut pas le fabriquer soi-même, ce piège?
Non. On ne peut pas le fabriquer soi-même. Alors, la bouteille renversée, coupée en deux et renversée, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais là, vraiment, si on veut ne pas jouer le même jeu que le frelon, eh bien, il faut essayer de prendre des pièges sélectifs.
Voilà, donc on va juste refaire une pause musicale avant de terminer notre émission. Voilà, donc on arrive à la fin de notre émission. Donc du coup, on était en train de parler des pièges, hein, ces pièges qu'on peut acheter sur Internet ou donc vous parliez du magasin à Épinal qui s'appelle Naturapi, je n'ai jamais entendu parler. Il est où à Épinal ?
Il est à Chavelot.
Ah d'accord. Autrement, donc, c'est aussi un problème public, puisque donc, cette espèce envahissante, on peut la combattre aussi au niveau public. Donc certaines communes se sont déjà investies. Après, vous pouvez inciter vos communes peut-être à acheter des pièges, à les disposer dans l'espace communal ou le mettre à disposition des habitants. Après, quand on met un piège, il faut le laisser en permanence ou on peut le mettre à un moment à une place, un moment à une autre, etc.
C'est-à-dire que vous allez voir, hein, de toute façon, si vous piégez rien, vous changez de place. Si vous ne piégez rien, c'est qu'il n'y a vraiment pas de frelons autour de chez vous. Mais ça va être vraiment très rare.
Voilà. Après, donc, dans une commune, on pourrait imaginer qu'un certain nombre de pièges achetés par la mairie pourraient naviguer d'une place à une autre, piéger un endroit, ensuite aller ailleurs. Si ça ne marche pas, on va ailleurs,
oui,
des choses comme
sûr,
ça.
Oui, bien sûr. Si on ne piège pas, on peut le déplacer. Il faut surtout avoir des personnes qui s'engage à alimenter le piège tous les 10 jours et même un peu moins pour pouvoir pour
qu'il soit
toujours une odeur qui
temps.
Soit attractif, oui. Absolument. Mm-hmm. Et là, il faut des volontaires et c'est ce qui s'est passé à Saint-Nabord, c'est ce qui se passe à Saint-Nabord.
Voilà, donc ça pourrait fonctionner s'il y avait une coopération des habitants. C'est comme plein de choses. Tout seul, on a du mal à faire les choses, mais dès qu'on est à plusieurs, dès qu'on est ensemble, on est beaucoup plus efficace.
Ah, ça, c'est très clair. Ça, c'est...
Donc, d'ailleurs, on parlait des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics font quelque chose au niveau vosgien
Eh bien, il y a... les pouvoirs publics font quelque chose. C'est-à-dire que déjà, il y a le groupement de défense sanitaire des Vosges qui se trouve à Épinal, donc qui est mobilisé, bien sûr, qui récolte, en fait, toutes les informations. Le nombre de frelons que nous piégeons, donc nous avons un document où nous avons rassemblé toutes ces informations et nous leur transmettons, ensuite eux retransmettent au niveau national. Donc
parce
c'est
que
important.
Groupement de défense sanitaire, c'est pas spécifique aux frelons, c'est sur plusieurs choses en même temps.
Oui, défense sanitaire des abeilles,
hein, oui,
c'est-à-dire que si votre ruche a un problème sanitaire, c'est à eux que vous faites appel, ils viennent voir et ils viennent vous conseiller sur ce qu'il faut faire.
Oui, c'est uniquement sur les abeilles, le groupement de défense sanitaire. Son sujet, c'est les abeilles
apicole, le groupement de défense sanitaire apicole.
Ah, voilà, il manquait le mot apicole.
Apicole, okay. Absolument.
Ils ont un site internet, on peut voir
oui,
quelque,
bien
ça
sûr,
quelque
oui,
part.
Oui, bien sûr, oui. Ça s'appelle GDS Épinal, vous pouvez...
OK.
Monsieur Guénaud en est le président.
Voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fera sans doute une deuxième émission avec les gens du groupement sanitaire apicole, à laquelle vous serez aussi invités. Donc, on fera ça dans les mois à venir. On essayera d'organiser ça.
Je voulais vous dire une chose. Vous me demandiez qu'est-ce qui était fait au niveau des pouvoirs publics. Il y a une nouvelle... méthode, en tout cas, qui vient d'être, dont nous venons d'avoir connaissance, c'est la possibilité d'aller repérer les nids en posant une puce électronique sur le frelon. Donc, c'est tout un procédé. Et cette mallette est donc commercialisée. Nous avons fait appel, donc au pouvoir public, nous avons fait appel à M. Nagelen pour voir si, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Comment on pouvait faire pour obtenir cette mallette? Donc, il s'est engagé et il nous a acheté cette mallette à l'association Raconte-moi les abeilles. Et nous sommes en train d'expérimenter justement le piégeage des frelons qui nous amènent au nid. Et là... là, c'est pareil, nous avons besoin de volontaires parce que ça demande du temps et il nous faut à chaque fois être 5 personnes pour pouvoir...
détruire le nid.
Alors, le détruire, ce sont les pompiers qui le font, oui, très, très important.
Alors, dans les Vosges, les pompiers veulent bien encore le faire. Ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Et pour d'autres espèces, ce n'est pas forcément le cas. Mais pour les frelons asiatiques...
Alors, frelons asiatiques, la prise en charge est 100% gratuite pour les pour les personnes. Je veux dire, vous découvrez un nid dans votre forêt ou dans votre jardin, il faut appeler effectivement les pompiers et c'est eux qui viendront détruire. Nous, avec la mallette, ce que nous faisons, c'est d'aller identifier les nids. Ensuite, nous leur donnons les informations précises où se trouve le nid parce qu'il faut qu'ils gagnent du temps, parce qu'ils en ont énormément à détruire actuellement. Et nous sommes dans une course contre la montre parce que nous avons 15 jours pour identifier les nids. Parce qu'après, ce sera trop tard.
Avant que l'émission se termine, oui. Parce qu'après, ce sera trop tard. On n'a pas parlé de comment on identifie les frelons. Hein, les frelons asiatiques, on les reconnaît parce qu'ils sont un peu plus gros qu'une guêpe normale.
Alors, ils sont plus gros, ils sont plus petits, surtout que le frelon européen que l'on connaît bien, qui a un thorax jaune. Ils ont surtout, ils sont noirs avec les pattes jaunes.
Donc, voilà, ce qui permet de les reconnaître bien, c'est les pattes jaunes.
On l'appelle le frelon à pattes jaunes.
Donc, du coup, on se reverra dans une prochaine émission. Et puis, merci beaucoup. Alors après, on peut aller donc, voir « Raconte-moi les abeilles » pour sur Internet, voir vos actions. Hein. Et puis, donc, on peut voir le groupement de défense sanitaire apicole sur Internet aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire des recherches sur les plantes mellifères pour les favoriser autour de vous, dans votre jardin et dans votre environnement immédiat. Voilà, merci de votre écoute. Et puis, donc, on essayera de programmer une prochaine émission qui sera un peu plus sur le frelon asiatique.
Merci.
Au revoir, bonne soirée.
Merci pour votre invitation.